Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce mardi 12 mars 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le mois sacré de Ramadan sera l'occasion pour les nations musulmanes de prendre des mesures efficaces pour lutter contre les puissances arrogantes et le régime israélien, a déclaré le président iranien. La résistance irakienne a frappé l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv et à l'approche des Jeux olympiques de Paris, les organes de l'État français ont été visés par des cyberattaques sans précédent. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le mois béni de Ramadan sera l'occasion pour les nations musulmanes de prendre des mesures efficaces pour lutter contre les puissances arrogantes et le régime israélien, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. Dans un message publié le lundi 11 mars, le président Raisi a adressé ses félicitations aux dirigeants des pays musulmans à l'occasion du début du mois sacré du Ramadan. Le régime usurpateur d'Israël occupe le territoire palestinien depuis plus de 7 décennies et commet des crimes odieux, a-t-il déploré, ajoutant que lors de ces derniers mois, le régime a tué en martyr plus de 30 000 civils innocents, notamment des enfants, dans la bande de Gaza. Les dirigeants des pays musulmans doivent promouvoir la paix et la fraternité entre les musulmans et faire développer une atmosphère de spiritualité et d'unité au sein de l'Oumma islamique, a précisé le président iranien. Ailleurs dans ses remarques, le président Raisi a souligné que la poursuite de la bataille du peuple musulman de la Palestine contre Israël et le soutien constant et ferme du monde musulman conduiraient à la libération de la Palestine, de la ville occupée d'Al-Rots et de la mosquée Al-Aqsa. Il a également exprimé le souhait que les nations musulmanes nouent des liens plus étroits et renforcent leurs relations afin de promouvoir l'islam dans le monde entier. Les forces navales de la République islamique d'Iran, de la Russie et de la Chine entameront un exercice naval conjoint dans la pointe nord de l'océan Indien, où diverses divisions de leurs armées effectueront des manœuvres maritimes à grande échelle. La phase principale de cet exercice naval conjoint, baptisé « Ceinture de sécurité maritime 2024 », débutera le mardi 12 mars. Les unités de surface et aéroportées de la marine iranienne, ainsi que leurs homologues chinoises et russes, participeront aux exercices conjoints. Des délégations navales d'Afrique du Sud, d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, d'Oman et du Pakistan participeront aux exercices en tant qu'observateurs. Les exercices navals de la ceinture de sécurité maritime 2024 visent à renforcer la sécurité et ses principes fondamentaux dans la région, à développer la coopération multilatérale entre les pays participants et à démontrer la volonté et la capacité de ces pays à garantir conjointement la paix et la sécurité maritime mondiale. La résistance irakienne a frappé le principal aéroport israélien en soutien continu aux Palestiniens de la bande au Gaza, qui subissent une guerre génocidaire israélienne, soutenue par les États-Unis. Les combattants de la résistance islamique en Irak ont ciblé ce lundi soir, 11 mars, l'aéroport Ben Gurion au plus profond de l'entité usurpatrice par drone, a annoncé le mouvement de résistance irakien dans un communiqué le lundi 11 mars. La résistance a par ailleurs diffusé des images de l'opération dans laquelle l'aéronef, sans passagers, a largué un projectile en atteignant la cible désignée. La coalition a organisé de nombreuses attaques de ce type depuis le 7 octobre, lorsque le régime a lancé la guerre en réponse à la tempête d'Al-Aqsa, une opération de représailles surprise des mouvements de résistance de Gaza contre les territoires occupés. Selon les statistiques officielles, plus de 30 000 Palestiniens vivant dans la bande de Gaza ont perdu la vie à la suite des attaques des sionistes. Dans le communiqué, la résistance irakienne a déclaré qu'elle continuerait à frapper les bastions ennemis en achevant la deuxième phase des opérations pour faire face aux forces d'occupation israéliennes et soutenir les habitants de Gaza. Les forces armées yéménites ont annoncé avoir ciblé un navire américain en mer Rouge avec un certain nombre de missiles navals appropriés, a rapporté Al-Masira. Les forces armées yéménites ont expliqué dans un communiqué publié ce mardi 12 mars que les forces navales ont ciblé le navire Pinocchio et que le coup a été précis, ce qui constitue une victoire pour le peuple palestinien et une réponse à l'agression américano-britannique contre le Yémen. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a confirmé que les forces yéménites continueraient à empêcher la navigation israélienne ou la navigation vers les ports de la Palestine occupée dans la mer Rouge et la mer d'Oman jusqu'à ce que l'agression israélienne cesse et que le siège contre le peuple palestinien à Gaza soit levé. Les forces armées yéménites ont également confirmé que leurs opérations militaires s'intensifieraient avec l'aide de Dieu Tout-Puissant pendant le mois de Ramadan, en soutien et en assistance au peuple palestinien opprimé et à nos frères Moujahidine de la bande de Gaza. Le ciblage par les forces yéménites du navire américain Pinocchio survient après que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené lundi 11 mars une nouvelle agression sur le sol yéménite en ciblant la province occidentale de Hudaïda. La chaîne de télévision yéménite Al-Masira a rapporté que des avions militaires américains et britanniques avaient attaqué avec des missiles la zone d'Al-Araj dans le district de Bajil à Hudaïda. La chaîne a également fait état de 3 raids menés par les forces aériennes américaines et britanniques qui ont ciblé la région de Rassissa dans le district de Salif à Hudaïda au Yémen. Des services de l'État français ont été l'objet des cyberattaques d'une intensité inédite, dont a assumé la responsabilité anonyme Soudan. Le gouvernement français a annoncé lundi 11 mars que plusieurs de ses services avaient été visés par des cyberattaques d'une intensité inédite et qu'un centre de crise spécial avait été activé pour rétablir les services en ligne. Le bureau du Premier ministre français, Gabriel Attal, a déclaré dans un communiqué lundi que les attaques avaient été lancées dimanche soir et qu'elles avaient touché plusieurs ministères sans fournir de détails. Lundi après-midi, indique-t-il, l'impact de ces attaques a été réduit pour la plupart des services et l'accès au site de l'État rétabli. Les attaques ont été menées après que le conseiller à la défense du Premier ministre français ait averti la semaine dernière que les Jeux olympiques de juillet et les élections du Parlement européen en juin pourraient être des cibles importantes. Plusieurs groupes de hackers ont revendiqué la responsabilité de récentes attaques cybernétiques, notamment Anonymous Soudan. Anonymous Soudan est un groupe connu d'hackers qui a mené des attaques l'année dernière contre des sites web en Suède, au Danemark et en Israël, entre autres. Aux États-Unis, d'éminentes organisations progressistes forment une coalition pour défendre les législateurs ciblés par le puissant Comité américain des affaires publiques israélienne AIPAC et contrer son influence au Congrès. Plus de 20 groupes de défense ont annoncé lundi le lancement de la coalition, le rejet de l'AIPAC. La coalition comprend des groupes de gauche traditionnels ainsi que des organisations axées sur les droits des Palestiniens. Ils cherchent à s'organiser contre la campagne de l'AIPAC visant à faire taire ce que le groupe de pression qualifie de dissidence croissante au Congrès contre la guerre israélienne à Gaza. La création de la coalition Le Rejet de l'AIPAC est une étape cruciale pour remettre les électeurs au centre de notre démocratie, a déclaré la coalition dans un communiqué. La coalition nouvellement formée a cité des informations selon lesquelles l'AIPAC préparerait une offensive de 100 millions de dollars par le biais de ses services électoraux pour affronter une poignée de progressistes au Congrès qui ne soutiennent pas suffisamment Israël ou qui ont appelé à cesser le feu à Gaza au début de la guerre. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Guerre à Gaza. Guterres appelle à respecter l'esprit du Ramadan. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se dit spécialement préoccupé par la menace israélienne d'attaquer Rafah, ce qui risque, selon lui, d'aggraver la tragédie avec laquelle sont aux prises les Palestiniens dans la bande de Gaza. Antonio Guterres estime également que l'aide humanitaire actuelle envoyée à Gaza est totalement insuffisante pour répondre aux besoins de la population. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé à faire taire les armes à Gaza et à libérer les otages. Cela pour faire honneur à l'esprit du Ramadan. En ce qui concerne la menace israélienne de mener une offensive terrestre contre Rafah, Guterres a averti qu'une offensive à grande échelle annoncée par les responsables du régime israélien contre cette ville du sud de la bande de Gaza ne serait pas seulement terrifiante pour plus d'un million de civils palestiniens qui s'y abritent, mais encore elle sonnerait également le glas de nos programmes d'aide, selon ses propres termes cités par les sources d'information. Avec le début du Ramadan, a dit Guterres, nous appelons à l'établissement d'un cessez-le-feu à Gaza, à la libération des otages et à l'élimination des obstacles entravant l'acheminement des aides humanitaires. Avec la poursuite du blocus et sur fond des attaques continues des militaires israéliens contre la bande de Gaza, des sources d'information font part de deux nouveaux cas de mort d'enfants palestiniens à cause de la faim. La faim et la malnutrition continuent de prendre des victimes parmi les Palestiniens. Portant à 27 le nombre de ce qu'on pourrait appeler les martyrs de la faim à Gaza. La chaîne Al Jazeera a rapporté lundi que deux enfants palestiniens avaient perdu la vie à l'hôpital Kamal Adwan de Beidaïa à cause de la malnutrition et de la déshydratation. 27 Palestiniens, pour la plupart des enfants, sont jusqu'ici tombés en martyrs à cause de la pénurie de la nourriture. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu que le nord de la bande de Gaza est spécialement exposé à la menace de famine. Or, les attaques israéliennes empêchent l'acheminement des aides humanitaires et un sur six enfants palestiniens au nord de la bande de Gaza souffrent de la malnutrition.
Bonjour à tous et bienvenue dans les studios de Presse TV, ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Notre débat du jour étant la mobilisation internationale concernant la cause palestinienne. On rappelle qu'aujourd'hui étant le premier jour de Ramadan là-bas en Palestine, que les gens en Palestine souffrent donc déjà d'une famine, de la faim, d'un manque de médicaments. Et c'est ainsi que les Palestiniens vont rentrer dans ce mois béni du Ramadan. d'où l'importance de cette mobilisation internationale. Tout d'abord, nous allons vous proposer, donc, comme le veut notre format débat, un reportage préparé à cet effet, vous montrant la mobilisation internationale à travers donc, le monde, les différents pays, différentes capitales. Et par la suite, nous ferons venir nos deux invités qui sont spécialistes des sujets du Moyen-Orient. Tout de suite, donc, je vous propose notre reportage.
De la Bosnie au Canada, des rassemblements massifs ont eu lieu en soutien à la Palestine. Alors que la guerre menée par le régime d'Israël est entrée dans son sixième mois et que la famine sévit dans l'enclave palestinienne, des manifestations se poursuivent dans le monde entier pour condamner le génocide en cours dans la bande de Gaza assiégée. De nombreuses villes du monde ont été samedi 9 mars le théâtre de manifestations massives pour dénoncer le génocide en cours à Gaza qui a fait plus de 30 000 morts parmi les Palestiniens. La plus grande manifestation a eu lieu à Londres, le cinquième rassemblement pro-palestinien de cette année où plus de 450 000 personnes se sont rassemblées devant l'ambassade américaine en brandissant des drapeaux et des banderoles appelant à un cessez-le-feu et à la fin de l'agression. La ville de Manchester a également été le théâtre d'une manifestation massive de soutien à Gaza. Des milliers de manifestants à Paris pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. À Paris, en France, des dizaines de milliers de personnes ont aussi manifesté en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Répondant à un appel du collectif Urgence Palestine, soutenu par la France Insoumise, LFI, les manifestants qui brandissaient des affiches clamant SOS Gaza des drapeaux palestiniens sont partis de la place de la République et ont achevé leur marche vers 17h sur la place de la Bourse. Les scandales Stop Génocide, Israël Apartheid, Boycott ou encore Free Palestine. Le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, la tête de liste du parti aux élections européennes, Manon Aubry et Rima Hassan, qui figurent aussi sur cette liste, étaient présents dans le cortège. À Lyon, environ 750 personnes, selon la préfecture de Oran, ont manifesté dans le centre-ville derrière une grande banderole levée du siège criminel de Gaza. Une marche pour la paix de 36 km, la distance entre la ville de Gaza et Rafah, a aussi été organisée au départ de Strasbourg. À Nantes, 800 personnes ont manifesté dans le calme, selon la préfecture de Loire-Atlantique. La maire PS de la ville, Johanna Roland, a écrit sur X, présente à la manifestation à Nantes cet après-midi pour demander un cessez-le-feu immédiat. 30 000 morts et la famine à Gaza. Le massacre des populations civiles doit cesser. En Suède, des manifestations similaires se sont déroulées dans plusieurs villes, dont Borås, Kristianstad et Göteborg. Des milliers d'Italiens ont participé à une manifestation nationale à Rome organisée par le syndicat CGIL contre la guerre en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et d'une paix juste au Moyen-Orient. Les manifestants ont marché depuis la Piazza de la Repubblica jusqu'à Forum Imperio en brandissant des drapeaux syndicaux et palestiniens. À Jakarta, la capitale de l'Indonésie, des milliers de personnes se sont rassemblés pour condamner la poursuite des massacres du régime sioniste dans la bande de Gaza. Des manifestations similaires ont été organisées dans de nombreuses villes d'Allemagne et du Danemark, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. Séoul, la capitale sud-coréenne, Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, et Tunis, la capitale de la Tunisie, ont été aussi le théâtre de manifestations en faveur de la Palestine. En Amérique du Nord, à Ottawa, la capitale du Canada, les manifestants pro-palestiniens ont également dénoncé les crimes et l'occupation du régime sioniste. Ils ont appelé à la fin de la politique de deux poids deux mesures de Tel Aviv, réclamant la traduction en justice du régime sioniste pour le massacre de milliers de Palestiniens, en particulier des enfants.
Nous revoilà donc ensemble dans les studios de Presse TV. Tout de suite, donc, nous allons introduire nos deux experts, nos deux invités pour ce débat du jour. Je vous propose donc de les découvrir. Je dis bonjour à Madame Aïssar Midani, spécialiste et experte des questions du Moyen-Orient, notamment sur les questions syro-françaises. Madame Midani, bonjour et ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à votre invité et à tous les téléspectateurs.
Merci, Madame Midani. Alors, notre deuxième étant est Monsieur Amrouni, juriste et s'y connaissant en droit international. Bonjour, Monsieur Amrouni. Ravi de vous avoir avec nous ici sur la question palestinienne, sur le droit humain à se défendre, le droit humain d'avoir un territoire. Merci de nous avoir rejoints.
Bonjour à vous, bonjour à votre chère invitée, Madame Midani, à tous nos téléspectateurs. Joyeux rapport à toutes nos participations pour vous. Et surtout pour la population palestinienne et surtout à Gaza.
Merci, Monsieur Amrouni. Alors, comme vous l'avez compris, oui, c'est le premier jour du Ramadan pour plusieurs pays dans le monde, dont notamment donc la Palestine. Alors la Palestine qui doit non seulement souffrir de la famine, mais doit également faire face à ce mois béni du Ramadan qui se fait dans des conditions extrêmement difficiles. Madame Midani, alors en sachant que vous avez vous-même vécu et vous avez vu vous-même en Syrie ce que peut faire une famine, parce qu'on n'oublie pas que la Syrie a subi le terrorisme, a subi également des sanctions internationales dues à la loi César qui ont provoqué une famine parce que les blés et le pétrole sont toujours volés. Madame Midani, à quoi font face à l'heure actuelle les Palestiniens selon vous?
Écoutez, les Palestiniens font face à des temps très durs. Parce qu'en même temps, il faut quand même savoir qu'on est au 157e jour de cette agression israélienne contre le peuple palestinien, depuis le 7 octobre 2023, l'électricité est coupée, les vivres sont coupés. Le combustible n'arrive pas, les passages sont fermés, donc il y a une pénurie en tout, donc pas seulement en alimentation, pénurie en eau potable, pénurie en matériaux et matériel sanitaire et médical. Même les premières nécessités, les choses de première nécessité comme les produits d'entretien, etc., tout manque. Il faut savoir quand même que le Gaza était sous blocus depuis 2007, hein, parce que, s'il vous plaît, pour le monde dit démocratique, les élections ont abouti à l'élection d'une équipe qui ne plaît pas à l'Occident et qui ne plaît pas aux Américains. Donc, ils ont mis tous blocus, Gaza sous blocus, suite à ces élections qui s'étaient avérées complètement démocratiques et qui se sont déroulées sous surveillance d'équipes internationales. Donc, en fait, depuis le 7 octobre, le bombardement, nuit et jour, n'a pas arrêté. Les destructions des maisons, les destructions des hôpitaux, les destructions... On le répète jamais assez, en fait, la violation de toutes les lois internationales a été effectuée. En même temps, affamer la population, c'est aussi une arme de guerre. Détruire les maisons de la population, c'est une arme de guerre. Détruire les moyens. Les écoles, les centres d'hébergement, les lieux de culte, tout est visé à Gaza. Et en fait, c'est un véritable génocide. Je tiens à dire quand même que la Cour internationale de justice qui a été saisie et qui a effectivement donné un rapport en donnant un délai de un mois pour que Israël empêche et arrête tout génocide, et ça n'a pas été fait. Au contraire, aujourd'hui, il se double de tuer les gens par la famine. Donc c'est une mort lente et avec les blessures, avec les manques de nourriture, avec tout en fait, les manques de tout. Et tout ça au vu et au su du monde entier. Je voudrais saluer quand même l'Afrique du Sud qui a recommencé aussi une requête auprès de la Cour internationale de justice, lui demandant de faire quelque chose face à ce génocide qui se déroule sous les yeux du monde, qui a été déploré et condamné par 153 pays du monde entier. Et qui a été, la décision a été arrêtée par le veto américain. Donc 153 pays qui ont demandé le cessez-le-feu immédiat, les États-Unis ont arrêté tout ça par un veto américain au profit d'Israël. Voilà, c'est donc le spectacle, le paysage global est assez incroyable.
Merci Marie-Denis pour cette mise au point précise de la situation palestinienne, que ce soit au niveau international ou que ce soit au niveau national pour eux. Monsieur Amrouni, on sait que les Européens, le monde occidental a commencé à vouloir faire parvenir par le biais de l'air, donc une aide humanitaire qu'on dénonce comme étant pas suffisante, comme étant une goutte d'eau toute petite par rapport aux besoins de 2 millions d'individus, de 2 millions de citoyens, de civils non armés. Et on indique aussi qu'ils ont pour projet de faire un port mobile au niveau donc de la mer de Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez les expertises et les annonces faites par les gouvernements? Alors, monsieur Amrouni, on n'entend pas, on vous entend pas. Dans tous les cas, on revient vers vous, alors Mme Imidani, le temps que M. Amrouni revienne. Madame Imidani, je vais vous poser la même question que je viens de poser à M. Amrouni. Vous avez entendu parler comme nous donc de ces fameux ports, mobiles, du fait que ce soit également qu'il y aurait des projets cachés derrière ces ports mobiles et que l'aide humanitaire proposée ne sera pas suffisante pour les 2 millions de citoyens palestiniens.
Écoutez, d'abord, en fait, on n'a pas commenté ce qui concerne, là, c'est le largage, cette décision de larguer les aides humanitaires par parachute, qui est absolument abjecte, hein, parce que, en fin de compte, elle vise à tuer les gens avec les aides, d'une part, et d'autre part, elle vise à ne jamais ouvrir les passages, donc ça oblige... Donc ne jamais discuter avec les forces qui sont en présence, c'est-à-dire la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, les organisations qui en fait organisent la distribution sur le terrain, et ça oblige aussi, ça fait qu'il se passe aussi de tous les rapports avec l'Égypte. Donc, ça neutralise aussi l'Égypte, quelle que soit sa position par rapport au passage de Rafah. Et en fait, ça permet à continuer le diktat israélo-américain sur les passages terrestres, et en prétextant aussi que, de toute façon, les aides, elles peuvent parvenir par le ciel. Ajoutez au fait que c'est encore une quantité encore plus petite et plus infime qui puisse passer, mais avec aussi une scénographie hollywoodienne qui va dorer le blason, redorer leur visage et leur blason en disant voilà, on envoie quand même les aides aux Palestiniens, on ne va pas les affamer, on ne veut pas les tuer, on va leur envoyer au compte-gouttes quand même des aides.
Merci, voilà. Mme Imidani. Monsieur Amrouni, Monsieur Amrouni, de retour, cette fois avec le micro. Monsieur Amrouni, vous vous rappelez de ma question concernant donc cette aide humanitaire, cette construction de ports. Mme Dani a parlé du côté terrestre, de tout ce qui a été fait pendant les deux dernières semaines, notamment les envois par air, qui a blessé et même tué des Palestiniens, certains camions ont été passés par Rafah. Il y a eu des tirs directs sur la population qui était affamée, fait de plus de 110 morts, sachant qu'il n'y a plus d'hôpitaux là-bas, donc on peut s'attendre à ce que les chiffres soient plus importants, puisqu'il y a eu 700 blessés sur le nombre de blessés, donc on peut s'attendre à ce que les chiffres montent. Monsieur Amrouni, qu'est-ce que vous pensez des derniers projets dits humanitaires proposés par le monde occidental ?
En tout cas, il faut saluer la résistance palestinienne, la population de Gaza, parce que la guerre aujourd'hui, elle est contre la population. L'armée israélienne a échoué de remporter cette guerre. Elle a échoué militairement, elle a échoué au niveau du renseignement. On n'a arrêté aucun leader de la résistance, ni politique, ni militaire. Elle n'a même pas réussi à libérer un seul prisonnier. Donc,
un manque de bonne communication avec Monsieur Amrouni, malheureusement. Alors, Mme Midani, on repasse vers vous. Monsieur Amrouni est de retour. Monsieur Amrouni, continuez. On vous entend.
Donc, la guerre aujourd'hui, elle est contre la population. Contre la population de Gaza, on veut l'affamer. Il y a un blocus économique important de tuer les gens par famine, d'une part. Et d'autre part, on veut favoriser les mercenaires palestiniens à Gaza. L'ennemi israélien veut faire passer l'aide humanitaire par ces gens-là, par ces groupes. Et donc, la fermeture de Rafah.
Il y a un vrai problème hein, de
juste humanitaire acheté par mer, ça a deux sens. Le premier sens, les alliés, c'est-à-dire les États-Unis, comme la France par exemple, ne font plus confiance à l'État de Netanyahou. Et ça, c'est un bon signe, c'est un signe positif. C'est-à-dire que les Américains eux-mêmes ne font plus confiance à l'État sioniste. Et donc l'Amérique, les États-Unis montrent qu'elle peut acheminer de l'aide militaire, de l'aide humanitaire, pardon, à la population de Gaza sans passer par l'autorité d'Israël. Sauf que Israël, l'armée israélienne, Netanyahou, veut contrôler, si vous voulez, tout ce qui se passe à l'intérieur de Gaza. Et donc l'objectif réel de l'armée sioniste, c'est démanteler les réseaux de la résistance au niveau militaire, et ça, il n'a pas le moyen aujourd'hui, mais il est passé à une nouvelle étape, c'est-à-dire démanteler le réseau de la résistance au niveau politique et au niveau social. Donc, il veut mettre une autre forme d'organisation politique et une autre forme d'organisation sociale. Est-ce qu'il va réussir? On ne sait pas. Aujourd'hui, d'après la résistance palestinienne, la résistance va très bien, elle a les moyens de lutter encore pour 6 mois. Donc l'armée sioniste ne pourra pas remporter aucune victoire militaire, sauf si elle arrive à désunir, si vous voulez, entre population et résistance. Mais cet objectif n'est pas acquis parce que la population de Gaza, on a vu les enfants hier en train de fêter le mois de Ramadan, on a vu les prières des Gazaouis pour la prière de la première nuit de Ramadan. Donc, les gens à l'intérieur même de Gaza qui subissent la guerre, qui subissent les actes lâches et criminels de l'entité sioniste, ils sont forts de l'intérieur, mais aussi ils sont unis face à ces massacres. Donc, au niveau de la population de Gaza, tous ces massacres, tout ce blocus anti-humain ne fait que mettre en place plus de fervescence dans la résistance palestinienne, mais surtout, lorsqu'on a écouté M. Hani hier et Abu Ubaïda avant lui dans leur discours, on voit très très bien que la résistance palestinienne, c'est elle qui mène la guerre de tout l'axe de la résistance. Le drapeau de l'axe de la résistance aujourd'hui, c'est le drapeau palestinien. Le leader de l'axe de la résistance aujourd'hui, il est à Gaza. Donc ça, c'est un changement global. Il y a deux changements, en fait. Il y a le fait que la Palestine, la résistance palestinienne est devenue leader de l'axe de la résistance dans toute la région. Deuxièmement, le changement radical de l'opinion publique européenne et américaine. Et ça, c'est une nouvelle victoire. Samedi, il y avait des milliers de Français et de Françaises qui soutiennent la population de Gaza, qui demandent l'arrêt de cette guerre, qui soutiennent la résistance palestinienne. Le drapeau palestinien est devenu le drapeau de la liberté. Et ça, c'est un événement historique. Ce n'est pas simplement la question palestinienne, elle n'est pas une question purement palestinienne, elle n'est pas une question arabe, elle n'est plus une question musulmane, c'est une question de l'humanité tout entière. Car Gaza, demain, elle va être meilleure. On va reconstruire Gaza. Mais est-ce qu'on va reconstruire l'état du monde? C'est-à-dire, est-ce que le monde qui a accepté qu'on massacre des enfants, des femmes, qu'on détruit des mosquées, des églises, des hôpitaux, qu'on arrive à affamer des enfants, est-ce que ce monde-là, l'âme humanitaire, l'humanisme dans le monde, il n'a pas pris un coup? Si, il a pris un grand coup. Donc, aujourd'hui, Gaza nous montre, si vous voulez, la voie de l'indépendance, pas simplement pour la Palestine, mais pour le monde entier. Et donc, c'est un changement radical, comme Mme Medani elle a précisé, pour l'Afrique du Sud, mais il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Il y a aussi le Brésil, il y a tous les pays de l'Amérique latine, il y a des pays africains. Il y a des personnalités françaises, européennes, britanniques, allemandes, américaines, canadiennes, australiennes. Aujourd'hui, la cause palestinienne, c'est la cause du monde entier.
Merci, Monsieur Amroudi. Madame Midani, alors on parlait, ça va être la dernière question de ce débat. Est-ce que, parce qu'il y a des craintes de certaines personnes, disent que ce fameux port pourrait cacher un plus gros problème sur la question palestinienne, puisqu'on sait que le gaz palestinien est la chose qui vise l'entité sioniste, donc le gaz de Gaza. Hein, il se pourrait que ces fameux ports puissent cacher donc une sous-traitance de ce gaz, une possibilité sur le du long terme à faire ainsi. Vous l'avez vu vous-même en Syrie, puisque c'est ce qui se passe en Syrie, le vol du pétrole et du blé. Est-ce qu'on peut donc se méfier de cette aide humanitaire occidentale, Madame Midani? Et c'est dans quelques minutes, on arrête le débat.
C'est une solution qui est complètement pernicieuse, qui vise effectivement à occuper la côte de Gaza, à faire arriver aussi des milliers de soldats américains. Ils l'ont dit très clairement, il faut un millier de soldats pour construire. Deuxièmement, c'est mettre la main, c'est une réoccupation de Gaza par les Américains et les Israéliens. C'est aussi, ils visent, il faut le savoir, la côte ou au large de Gaza, il y a de grandes quantités de pétrole et de gaz aussi qui sont visés par cette solution, et aussi donc par les Israéliens et par les Américains. Donc tout cela, c'est vraiment un projet, je dirais, complètement colonisateur, à nouveau, qui vise à contourner la libération, et qui vise à contourner, sous des apparences d'aide alimentaire et humanitaire, qui vise à contourner tous les pays de la région.
Merci, Madame Midani. On doit conclure, malheureusement.
La résistance vaincra quand même.
C'est ce qu'on espère tous. Ça explique également la réaction récente du gouvernement chinois, qui a beaucoup bougé, qui a également changé également son discours, qui est devenu beaucoup plus direct. Ça sera certainement un autre sujet de débat ici sur les plateaux de Presse Civi. Madame Midani, Monsieur Amrouni, ravi toujours de pouvoir avoir votre expertise sur les plateaux de Presse Civi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dis à nos chers auditeurs, téléspectateurs, merci de nous regarder. N'hésitez pas à partager, voir, revoir nos vidéos et nos débats, nos programmations sur notre site internet ou encore nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet de débat. Au revoir et à bientôt.
Le tourisme gastronomique en Europe.
Le tourisme gastronomique, également appelé tourisme culinaire, est un type de voyage touristique associé à la cuisine locale dans le but de découvrir l'histoire, le savoir-faire et la culture d'un pays à travers ses spécialités culinaires. Le tourisme gastronomique en Iran est une série de 36 émissions qui tente de faire découvrir à nos fidèles auditeurs la riche cuisine iranienne. Bonjour, chers auditeurs. Au cours de la série radiodiffusée Tourisme gastronomique en Iran, nous nous efforcerons de vous présenter les différentes provinces iraniennes et leurs attractions touristiques et culinaires. Lors de l'émission de la semaine dernière, nous avons parlé de la belle nature du Gilan et de ses diversités gastronomiques. Par ailleurs, nous avons découvert ensemble certains des aliments et des lieux d'intérêt touristique dans cette province septentrionale. Lors de l'émission d'aujourd'hui, nous découvrirons ensemble la belle ville de Fumain pour connaître les aliments spéciaux de cette région, en plus des sites naturels et historiques de la ville. Restez avec nous jusqu'à la fin du programme. Fumain est une belle ville au cœur des forêts et des rizières de la province du Gilan, qui est également connue comme la ville des statues, car de nombreux symboles et statues ont été installés aux quatre coins de la ville, et cela a donné une belle apparence à la ville. Les habitants de la ville de Fumain sont de l'ethnie Gilak et parlent la langue Gilaki. Selon des sources historiques, la ville a une histoire de 2500 à 3000 ans. Du point de vue du tourisme et de l'écotourisme, Fumain occupe une place particulière en Iran et même dans le monde. Elle est devenue l'une des pôles touristiques avec ses paysages uniques. L'une des attractions les plus importantes de la province du Gilan se situe à 20 km de Fumain. Il s'agit de Ral Erutran, la forteresse historique très connue de la région. Selon les archéologues, l'histoire de la forteresse magnifique remonte à l'époque des Sassanides. Les Sassanides ont régné entre 224 à 651 après Jésus-Christ. La forteresse Ral Erutran est entourée d'arbres et de montagnes. En raison de ces mêmes caractéristiques, elle n'a jamais été conquise par les ennemis pendant l'histoire iranienne et est restée impénétrable, et c'est ce qui surprend les chercheurs. Cette ancienne forteresse est composée de différentes parties, dont deux citadelles et un arsenal. La citadelle était la résidence du souverain de l'époque et de sa famille, et l'arsenal était utilisé pour la résidence des soldats et la fabrication d'armes et de munitions militaires. D'autres parties de la forteresse comprennent un certain nombre d'entrées, une prison, une morgue, des bains publics, un étang, un réservoir traditionnel d'eau potable, une tour de surveillance, plusieurs salles d'observation, un certain nombre d'unités résidentielles, etc. Les attractions de la ville de Fumain ne se limitent pas à la beauté de la nature et aux monuments historiques. Cette ville, à l'instar d'autres villes de la province du Gilan, propose une grande variété de plats et attire ceux qui s'intéressent au tourisme gastronomique. L'une des grignotines délicieuses connues de la ville de Fumain est appelée la cookie de la ville septentrionale de l'Iran, qui est toujours accueillie par les touristes. Il s'agit d'un biscuit célèbre, non seulement parmi les habitants de Fumin, mais aussi parmi d'autres villes d'Iran. Dans le passé, les dames de Fumin préparaient ce délicieux biscuit chez elles, mais cette grignotine a petit trouvé sa place dans les différentes villes du pays, si bien que les Iraniens préparent et vendent aujourd'hui ce biscuit partout en Iran. La cuisson de ce biscuit est un peu difficile. En plus de la pâte, on doit également préparer les ingrédients à l'intérieur du biscuit. On a besoin de trois types d'huile pour préparer les ingrédients à l'intérieur des biscuits. Pour commencer la cuisson, on a besoin de 20 g de beurre ou d'huile animale, 90 g d'huile lisse, 35 g d'huile liquide. On doit également préparer 4 cuillères à soupe de noix hachées, 500 g de sucre semoule, 2 cuillères à soupe de cannelle, 1/4 cuillère à café de cardamome, 1/8 de cuillère à café de vanille, enfin 300 g de farine. Mais pour préparer la pâte du biscuit, il faut préparer 1 kg de farine, 1/4 de cuillère à café de bicarbonate de soude, 1/8 de cuillère à café de levure chimique, 240 g d'huile raffinée, 40 g d'huile solide, 50 g d'huile liquide, 1/4 de cuillère à café de safran fondu. À la fin, il faut 400 ml d'eau. Il est maintenant temps de préparer les cookies. Tout d'abord, on mélange lentement les trois types d'huile avec le sucre. Attention à ne pas dissoudre le sucre pendant le mélange, sans quoi le sucre rendait les biscuits coulants. Ensuite, on ajoute la cannelle, la cardamome et la vanille. Enfin, une fois que les ingrédients sont devenus légers, on ajoute la farine. Après avoir préparé les ingrédients à l'intérieur des biscuits, il est temps de préparer la pâte. On verse la farine, le bicarbonate de soude et la levure chimique dans un grand récipient profond. On mélange tout ensemble. On fait ensuite un trou au milieu de la pâte. On verse trois types d'huile et de safran au milieu de la farine et on mélange tout. On ajoute de l'eau petit à petit jusqu'à ce que le liquide devienne une pâte. Lorsque la pâte ne colle plus aux mains, elle est prête. On la pétrit un peu et la met dans un récipient fermé pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'elle lève. Une fois que la pâte a levé, on en prend des boules, on la lisse avec un rouleau à pâtisserie. Puis, on y ajoute une partie des ingrédients qui doit être utilisée à l'intérieur du biscuit. On donne à la pâte une forme ronde et plate. Ensuite, on frotte un peu d'eau battue et de safran sur les biscuits. On les laisse au four à 260 degrés Celsius pendant une demi-heure. De cette façon, on peut expérimenter chez soi le goût agréable des biscuits de la ville de Fumin. Les touristes qui voyagent dans les provinces septentrionales de l'Iran doivent ajouter de l'ail à leur alimentation. L'ail, utilisé sous diverses formes dans les plats des peuples du nord de l'Iran, est l'un des principaux identifiants de la cuisine locale. Parmi les types d'aliments dans lesquels l'ail est utilisé, on peut citer toshitare, sirabich, mirzarasemi. L'ail est également utilisé comme cornichon dans les plats locaux. En plus de l'ail lui-même, les habitants du Gilan utilisent également des feuilles d'ail dans leurs repas. Les Gilanais préparent divers plats à base d'ail et de feuilles d'ail. L'un des plats les plus simples est tablé sirabich, une sorte de ragoût qui est très simple et populaire parmi les indigènes du Guilan. Sirabich peut être consommé avec du riz ou du pain. Pour préparer ce délicieux plat, on a besoin de 3 bouquets de feuilles d'ail, soit 300 grammes, 3 œufs, un pot d'huile, 100 grammes de beurre, du sel, du poivre, un pot de curcuma. Tout d'abord, on hachant les feuilles d'ail de manière égale avec un couteau bien aiguisé sur la planche. Ensuite, on les lave et on les met dans une passoire jusqu'à ce que l'eau soit complètement absorbée. On fait frire les feuilles d'ail avec un pot d'huile. Il suffit de les faire frire. Puis, on peut y ajouter 100 g de beurre. Ensuite, on ajoute le curcuma dans la poêle pour que les feuilles d'ail prennent un peu de couleur. On ajoute ensuite du sel et du poivre aux ingrédients. Mais le poivre donne un meilleur goût au ragoût. Ensuite, on ajoute les œufs et les remue immédiatement. On ne doit pas laisser les œufs cuire. Pour après, le ragoût sirabich est prêt. La méthode de préparation de ce délicieux ragoût est très simple. Force est de rappeler que ce repas contient de nombreux nutriments.
Thank you.